Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission de nos podcasts. Émission un peu particulière puisque d'habitude je m'entretiens avec un seul invité et cette semaine j'ai deux invités autour de moi pour évoquer les sujets du terrorisme. Nous allons partir du Pakistan et de l'Asie du Sud-Est pour ensuite nous prolonger vers l'Europe et vers nos contrées occidentales. Pour évoquer ces sujets terroristes, je reçois cette semaine donc Daniel Dory et Alain Lamballe. Bonjour.
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 Daniel Dory, vous êtes membre du comité scientifique de Conflit, également directeur de la revue Problèmes d'Amérique latine, et vous avez été professeur à l'Université de La Rochelle, et vous travaillez essentiellement sur les questions du terrorisme. Et Alain Lamballe, général deuxième section, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, et d'Asie 21 Futurible, et auteur également de nombreux ouvrages consacrés au Pakistan et au terrorisme en Asie du Sud. Je mentionne celui-ci qui est paru récemment, Insurrection et terrorisme en Asie du Sud, de l'édition Stratégie, collection des chercheurs militaires. Alors, terrorisme donc, c'est une nouvelle émission que nous consacrons à ce sujet parce que c'est un sujet qui est majeur, même si le fait terroriste se calme un petit peu en France, du moins dans sa version djihadiste, mais il nous paraît important de définir les termes et d'avoir également une approche épistémologique du sujet pour pouvoir mieux le comprendre. Et nous allons partir du cas du Pakistan, qui est fort intéressant, Daniel Dory, pour voir justement comment cette question terroriste se met en place, et notamment les rapports entre l'État et le terrorisme.
Oui, voilà. Le cas du Pakistan est prodigieusement intéressant pour nous, et donc on a la chance d'avoir le général Lamballe, qui est quand même le grand spécialiste de la zone, pour évoquer cette espèce de camailleux qui est remarquable entre les organisations terroristes qui dépendent directement des services pakistanais, des organisations qui n'en dépendent pas directement mais qui sont quand même liées, des organisations freelance qui agissent contre, pour des intérêts divers et variés, et des groupes totalement anomiques qui utilisent les frontières de temps à autre pour faire des méfaits divers. Avec quand même un phénomène intéressant, c'est que ce bouillon, cette marmite de production de terrorisme peut produire des attentats remarquables, multisites, comme Bombay 2008, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens sérieux, pas seulement des services, mais des organisations sérieuses. Donc, c'est un petit peu l'opportunité de voir la diversité des terrorismes à partir d'un des lieux emblématiques de production du phénomène.
Bombay, c'est combien de morts, pour préciser un petit peu les choses?
Ben, on ne sait pas exactement, mais on a dépassé la centaine, très vraisemblablement.
Oui, c'était un attentat qui avait été organisé par une organisation qui était basée au Pakistan, effectivement. Oui. Et là, c'est le cas d'un exemple, effectivement, d'une organisation manipulée par un gouvernement, par un État, en l'occurrence l'État pakistanais, par l'intermédiaire d'un service de renseignement, le principal service de renseignement pakistanais, qui est l'Inter Services Intelligence, en abrégé ISI, que l'on connaît tous très très bien. Quoi.
Enfin, qu'on devrait connaître beaucoup mieux. Parce qu'il est juteux, quand même.
C'est un service extrêmement efficace, il faut bien l'admettre.
Voilà. La plaisanterie que j'ai entendue sur le Pakistan souvent, c'est que la plupart des pays ont une armée, mais au Pakistan, c'est une armée qui est un pays.
C'est tout à fait exact, et on pourrait tout à fait justifier cette formule par la politique actuelle au Pakistan. Hein. incontestablement, l'armée joue un rôle important, même si le chef d'état-major de l'armée de terre, qui va être remplacé, a déclaré avant de partir que l'armée ne s'occuperait plus de politique. Il avoue par ce fait-là qu'elle s'occupait de politique avant.
Voilà.
Et le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre s'en occupera encore vraisemblablement. Car le principal militaire au Pakistan, ce n'est pas le chef d'état-major des armées, des trois armées, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est quand même une armée considérable, fort bien équipée, fort bien entraînée, et qui comprend plus de 600 000 hommes tout de même.
Voilà.
Et le service de renseignement dépend en fait de l'armée. C'est un service vraiment militaire. Il y a des civils, c'est vrai, mais le patron de Staezai est un général de corps d'armée, de l'armée de terre en règle générale.
Oui.
Pourquoi est-ce que les Pakistanais avaient organisé, via leur service de renseignement, cet attentat à Bombay? C'était la question du Cachemire, c'était déstabiliser l'Inde?
Alors, il y a effectivement une utilisation du terrorisme à des fins de politique étrangère, c'est une évidence. Le terrorisme est une prolongation, finalement, de la politique étrangère. Et c'était le cas, précisément, de cet attentat de Mumbai. Mais c'est le cas de beaucoup d'autres attentats, au Cachemire en particulier, car le Cachemire est avant une paume discorde considérable entre l'Inde et le Pakistan. Et le terrorisme, évidemment, est extrêmement actif là-bas. Il y a des gens, des militants, qui sont formés du côté pakistanais et qui franchissent la ligne de contrôle, comme on l'appelle, qui sépare donc les deux Cachemires, l'un administré par l'Inde et l'autre administré par le Pakistan. Oui, le terrorisme est une prolongation de la politique étrangère.
Et puis ça a l'avantage de pouvoir dire toujours c'est pas nous, c'est des gens incontrôlables, ah comme c'est dommage que c'est arrivé, mais ça ne trompe personne, d'autant plus qu'il existe de vrais groupes qui ne sont pas contrôlés, donc on peut... voilà.
Je vais vous le dire, voilà. Car il est vrai que l'ASI contrôle un certain nombre d'organismes, mais l'ASI ne contrôle pas tout.
Voilà.
Et on s'aperçoit très bien d'ailleurs de ce phénomène actuellement, si l'on considère ce qui se passe de l'autre côté du Pakistan, sur la frontière avec l'Afghanistan.
Absolument.
L'ASI est totalement dépassé par ce qui se passe actuellement.
Par les talibans pakistanais.
Par les talibans pakistanais, qui ont maintenant leur base arrière en Afghanistan. À l'origine, les talibans, aussi bien afghans que pakistanais, étaient contrôlés par l'ASI. Et maintenant, on voit que ce n'est plus le cas.
Donc autrefois, les talibans étaient basés au Pakistan et agissaient en Afghanistan. Aujourd'hui, ils sont basés en Afghanistan.
Alors,
et ils agissent
c'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes.
Non, attention. Les talibans, à l'origine, n'ont pas été créés par le Pakistan. Ils ont été utilisés par l'ASI en particulier, mais ils ont été créés, ces pas talibans, en Afghanistan même, quoi. Mais le Pakistan a pris le train en marche. Alors maintenant, il y a effectivement les talibans afghans qui ont pris le pouvoir en août 2021, on le sait. Ouais. Et puis, il y a les talibans pakistanais qui ont la même idéologie que les talibans afghans, c'est-à-dire les uns comme les autres veulent créer un État islamique basé sur la charia. C'est le cas en Afghanistan. Et les talibans pakistanais veulent faire la même chose au Pakistan. Et là, on s'aperçoit très bien que l'ASI, précisément, n'a plus la main, quoi. Ouais. Il y a eu des tentatives de négociations qui ont été faites entre le gouvernement pakistanais et les talibans pakistanais, sous l'égide de l'ASI, sous l'égide de l'armée de terre, mais ça n'a pas abouti. Les talibans pakistanais ont rompu cet accord de cessez-le-feu qui, en fait, n'avait jamais été appliqué. Et les attentats, actuellement, se multiplient de plus en plus sur la frontière afghane et puis même ailleurs, au Pakistan.
Et ça montre quelque chose qu'en tant que géopoliticien me fascine, c'est qu'on a affaire à des groupes qui notamment pratiquent le terrorisme, qui sont plus ou moins liés à des États, mais le conflit, une partie du conflit entre le Pakistan et les talibans afghans vient de la ligne du rang que les Afghans ne reconnaissent pas.
Alors c'est tout à fait exact. Alors cette ligne du rang, c'est en fait ce qui sert de frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Mais en fait, c'est une frontière qui a été définie à l'époque coloniale, à l'époque britannique, en 1893, très exactement.
Et ça coupe les Pashtuns.
Alors, ça coupe totalement en deux la communauté Pashtun. D'ailleurs, j'ai étudié ce problème dans un livre que j'ai fait sur les Pashtuns, précisément. Et c'est un sujet qui divise les deux pays. Et aucun gouvernement afghan n'a reconnu cette ligne d'Iran comme frontière, y compris les talibans actuels.
Voilà.
Les talibans afghans ne reconnaissent pas cette frontière. Pour eux, cette ligne du rang définie en 1893 est une ligne artificielle, et elle l'est en définitive. Pour les talibans afghans, la frontière de l'Afghanistan se situe sur l'Indus.
Ben oui.
C'est-à-dire qu'elle inclut toute la province nord-ouest du Pakistan, qu'on appelle maintenant le Khyber Pakhtunkhwa, et qui comprend 36 millions d'habitants, la majorité étant des Pashtuns.
36 millions, c'est pas de mince affaire. C'est la moitié de la population française.
Oui, oui. Alors la population du Pakistan, il faut le savoir, c'est un phénomène considérable. C'est lié au terrorisme également, tout ça, hein, car ça déstabilise évidemment le pays. Au Pakistan, dans ce qui est le Pakistan actuel, il y avait en 1947, au moment de la création du pays, 33 millions d'habitants à peu près. Actuellement, ils sont peut-être 220, 230 millions d'habitants. C'est pas très exact.
C'est important.
C'est
peut-être.
Ce qui veut dire que la population a été multipliée par plus de 7.
Mais il n'y a pas de recensement.
Il y a eu des recensements, mais qui ont été mal faits.
Voilà.
Et on en parle d'un nouveau recensement. Mais ce qui est un phénomène considérable, c'est qu'il y a une augmentation très très importante de la population, et ça crée des désordres évidemment sociaux, dont profitent certains mouvements terroristes.
Et cette récupération de cette zone avec ses 36 millions d'habitants, c'est quelque chose qui, à l'échelle des années qui viennent, est de l'ordre du probable, du possible ou impossible que les Pashtuns afghans puissent récupérer cette région?
Alors, dans le livre que j'ai publié il y a 2-3 ans, je crois, un des livres que j'ai intitulé « Les Pashtuns, un grand peuple sans pays ».
VA, hein, c'est VA édition.
VA édition, absolument. Ouais. J'ai étudié plusieurs scénarios, dont celui que vous évoquez. Il y a la possibilité d'un grand Afghanistan. C'est-à-dire que l'Afghanistan pourrait essayer de récupérer les zones pashtounes qui ont été perdues par l'Afghanistan à l'époque coloniale. Ça me paraît impossible. Parce que le Pakistan, l'Afghanistan a des problèmes, évidemment, que l'on sait. Et puis le Pakistan a une armée extrêmement solide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc cette solution d'un grand Afghanistan me paraît impossible. Il y a un autre scénario possible. C'est un grand Pakistan. C'est-à-dire incorporation des zones pashtounes afghanes par le Pakistan. On en parle peu. L'armée pakistanaise s'intéresse certainement de très près à ça. D'ailleurs, comme le Pakistan accuse à juste titre l'Afghanistan de soutenir les talibans pakistanais, l'armée pakistanaise, le gouvernement pakistanais, envisage éventuellement d'intervenir militairement dans les zones pashtounes afghanes. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de récupération. D'ailleurs, dans le livre que je citais, j'envisage éventuellement une collaboration possible entre l'armée pakistanaise et les talibans afghans. Le scénario pourrait être le suivant. Les Pakistanais pourraient dire aux Afghans, aux Pashtuns, ben écoutez, on vous incorpore, mais en échange, on accepte que vous imposez la charia dans toute la zone pashtoune afghane et puis pakistanaise. Ça ferait, et peut-être même, il pourrait accorder des ministères importants à ces Afghans. C'est un scénario possible, peut-être difficilement envisageable, mais qui n'est pas du tout à exclure.
Avec un ingrédient additionnel, c'est l'État islamique que, à mon avis, l'ISIS pakistanais ne voit pas d'un très mauvais œil leur présence pour déstabiliser les Afghans, les talibans afghans qui soutiennent le taliban pakistanais.
Le Daesh, quoi, faut allusion à Daesh. Oui. Hein. Alors Daesh est effectivement présent en Asie du Sud, présent en Afghanistan, présent au Pakistan, présent aussi, aussi en Inde. Daesh a une vocation évidemment internationale. Daesh veut imposer la charia dans le monde entier, en réalité. Alors que les talibans afghans ont une vocation régionale, et les talibans pakistanais, pareil, ont une vocation régionale. Ils veulent imposer la charia dans ces deux pays, Afghanistan, c'est déjà fait, et Pakistan. Mais il y a des liens, effectivement, entre ces différentes organisations, bien évidemment, parce qu'ils prônent les uns comme les autres la charia. Là, on aboutit, effectivement, à une internationalisation du terrorisme.
Voilà.
Alors d'ailleurs, je renvoie nos auditeurs à plusieurs articles que vous avez réalisés avec Hervé Théry, où on a une cartographie à la fois des ethnies pakistanaises et afghanes et de l'imprégnation terroriste, des cartes que l'on retrouve sur le site de Conflit pour les abonnés et qui permettent de visualiser le problème. Vous évoquez donc cette confrontation entre Daesh et les terrorismes afghans ou pakistanais. Donc il n'y a pas de volonté de propagation de l'idéologie islamiste ou musulmane de la part des Pakistanais. C'est contrôler leur territoire, éventuellement l'étendre vers l'Afghanistan, mais il n'y a pas de projet mondial.
À mon avis, non.
Non, pas vraiment. Mais ce terrorisme islamique est présent également en Inde, est présent également au Bangladesh. Mmh. En Inde, ce terrorisme islamique existe au Cachemire. Alors là, il y a un point qu'il faut évoquer, c'est que le terrorisme parfois favorise une idéologie, veut imposer une idéologie, mais ça aboutit parfois à une revendication également territoriale. Et c'est le cas du Cachemire. Il s'agit à la fois d'imposer la charia, mais il s'agit aussi de récupérer la partie indienne du Cachemire. Mais le terrorisme islamique est présent dans d'autres régions indiennes, au Kerala en particulier. Kerala, cette province du sud-ouest de l'Inde, est divisée à peu près en 3/3 de population, un gros tiers hindou, un petit tiers chrétien et un petit tiers musulman. Il y a là, au Kerala, des mouvements islamiques extrêmement importants qui sont soutenus vraisemblablement par la SAE.
Oui.
Quel est le profil du terroriste Daesh en Afghanistan? C'est un Pashtoun? C'est un Afghan non Pashtoun autre opposé aux talibans?
Il y a des relations qui existent entre Daesh et les talibans afghans. On ne connaît pas très bien les dirigeants de Daesh en Afghanistan.
Non. C'est apparemment des gens qui relèveraient plutôt de la mouvance tadjik, ouzbek.
Alors là, c'est un autre phénomène international.
Voilà, oui, oui.
Il y a effectivement un islamisme qui renaît peut-être en Asie centrale, et il y a des mouvements effectivement ouzbeks en particulier qui sont soutenus par le régime taliban afghan actuel.
Oui, oui.
Et pareil pour le Tadjikistan. Il y a des mouvements tadjiks également en Afghanistan.
Et Kazakh à la compliqué. Frontière pakistanaise.
Pardon?
Et Kazakh à la frontière pakistanaise.
Aussi. Et puis il y a également le phénomène Ouïghour. Il y a des Ouïghours qui sont formés en Afghanistan, peut-être moins maintenant, mais c'était le cas en tout cas, moins maintenant parce que la Chine essaye évidemment de développer ses relations avec l'Afghanistan.
Pour et elle a les moyens de les calmer.
Elle a des moyens de les calmer en particulier. Il y a une frontière commune entre la voilà. Chine et l'Afghanistan qui a été créée en 1895 aussi, à l'époque coloniale. Une frontière très très peu importante, de 76 kilomètres. Enfin, une frontière tout de même.
Donc les Anglais ont importé le cricket, la marmelade et puis des frontières. Mais la frontière est plus compliquée que le cricket.
Ah, mais il y a des problèmes frontaliers très importants.
Avec les frontières, on gagne moins souvent qu'au cricket, dès le moment où les gens ne sont pas d'accord d'être d'un côté ou de l'autre. Mais ça montre surtout un phénomène important, c'est que le terrorisme est une technique, simplement une technique, qui est à la disposition de différents acteurs en fonction des conjonctures, et qu'on va l'utiliser parfois de manière surprenante dès que la conjoncture change. Et là, c'est tout à fait intéressant, puisque depuis que les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan, ça casse le schéma pakistanais, qui se retrouve avec des talibans pakistanais qui... Alors, moi, je vois ça, mais pas dans le détail que vous avez, mais je le vois de loin, surtout à partir de nos études empiriques sur le fait terroriste. Et c'est une perte de contrôle de l'État sur une frontière qui était à peu près tenue, plus ou moins bien, c'est la zone tribale qui était à peu près tenue. Et là, on a un jeu avec un acteur additionnel qui est Daesh. Et Daesh joue des jeux effectivement transnationaux qui peuvent être surprenants parce qu'ils sont en train de réussir des attentats au-delà de la zone de Jalalabad où ils sont installés habituellement. Et là, ça nous incitera à penser qu'ils sont pas chauds, mais non. C'est les gens qui réussissent à attraper ne le sont pas ou très rarement. Donc, on a affaire à une recomposition qui est tout à fait fascinante.
Oui, c'est extrêmement difficile d'y voir clair. Alors, les Pakistanais ont essayé de se protéger des talibans qui se sont repliés donc en Afghanistan en érigeant une clôture. Il y a maintenant une clôture électrifiée avec des mines qui longe toute la ligne du rang, y compris d'ailleurs la frontière iranienne. On constate que les attentats quand même commis au Pakistan sont parfois orchestrés à partir de l'Afghanistan.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'il y a quand même des passages, malgré cette clôture qui est totalement artificielle, qui divise vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure,
des familles,
des Pashtuns, qui est la plus grande communauté tribale au monde d'ailleurs. Alors, au point de vue terrorisme en Asie du Sud, et en particulier au Pakistan, je crois qu'il faut également insister, je l'ai fait tout à l'heure, et aussi sur le phénomène nationaliste. Le terrorisme sert à propager une idéologie, mais sert aussi à conquérir des territoires ou à donner une indépendance à certains territoires. Je veux dire par là que le Pakistan est confronté à un nationalisme, à un terrorisme nationaliste au Baloutchistan. Il y a des mouvements balouches extrêmement importants qui revendiquent l'autonomie et même l'indépendance du Baloutchistan. Ces gens-là sont effectivement musulmans, mais ils ne revendiquent pas un islam extrémiste comme les talibans, pas du tout. Ils veulent simplement l'autonomie, voire l'indépendance du Baloutchistan, et c'est un phénomène considérable. Alors, l'État pakistanais joue le jeu des talibans, quelquefois, pour permettre à ceux-ci de s'opposer aux nationalistes baloutches. C'est assez complexe, en réalité. Alors, ce phénomène nationaliste baloutche, qui utilise le terrorisme, concerne également la partie orientale de l'Iran, qu'on appelle le Seistan, voilà, qui est peuplée de sunnites. L'Iran, on le sait bien sûr, est chiite, mais la partie orientale est composée donc de cette province du Seistan, peuplée de baloutches sunnites. Oui. Donc, il y a là un problème considérable. Un autre aspect également du terrorisme au Pakistan, c'est un terrorisme anti-chinois. Il y a des attentats commis contre la Chine régulièrement, au Baloutchistan en particulier. Les Baloutches estiment que les Chinois exploitent leurs ressources, voilà, et n'admettent pas ça.
Puis il y a des pipelines en préparation.
Il y a des pipelines en préparation entre Gwadar, qui est sur la côte de l'Arakan, et puis le Xinjiang. Il y a des mines également qui pourraient être exploitées par les Chinois. Voilà. Les Chinois ont des intérêts économiques extrêmement importants. Ils veulent créer un corridor économique entre le Xinjiang et la mer d'Arabie. Voilà. Les Baloutches s'y opposent. Et les Baloutches sont maintenant en liaison avec des nationalistes sindhis aussi pour créer des attentats contre les Chinois, y compris à Karachi, qui est la capitale du Sindh, une autre province pakistanaise. Mais le nationalisme sindhi n'est pas extrêmement important.
Oui, mais il est très très lié. Enfin, il y a un phénomène intéressant. Le fait qu'ils soient sunnites, les Baloutches, fait une coupure récente dans l'Iran, que bien sûr tous les services occidentaux, donc le camp du bien que nous aimons tant, va exploiter, alors que dans la période avant du temps du Shah d'Iran, le Baloutchistan était un lieu, par exemple, la femme du Shah d'Iran était une princesse Baloutche. Mmh. C'est quand même intéressant comme récupération de... alors qu'on imagine mal un mollah ou un ayatollah aller chercher des... les femmes baloutches. Donc on a une coupure religieuse qui est beaucoup plus facilement exploitable maintenant du côté Afghanistan, qui fragilise le versant sud, qui par ailleurs est lié au collier de perles chinois des ports. C'est-à-dire qu'on a un kaléidoscope de conflits dans lequel les attentats sont des espèces de petites pustules qui nous permettent d'avoir un regard sur des conflits extrêmement compliqués.
Mmh. Oui, tout à fait d'accord.
Quel est le rapport entre le nationalisme et l'islamisme ? Qu'est-ce qui est premier finalement ? Est-ce que ce sont d'abord, je pense notamment au Pakistan, d'abord des gens qui veulent diffuser le djihadisme ou l'islamisme, ou est-ce que ce sont d'abord des personnes qui veulent défendre leur identité, leur ethnie, leur peuple sur leur territoire et qui se servent de l'islamisme comme moteur ou comme prétexte ?
Les deux existent.
Oui.
Les talibans veulent promouvoir, comme on l'a dit déjà, une idéologie islamiste. Ils ne revendiquent pas de territoire particulier. Sauf peut-être, effectivement, comme je l'ai dit, un grand Afghanistan ou un grand Pakistan. Mais il y a à côté de ce terrorisme idéologique, un terrorisme nationaliste. C'est le cas du Baloutchistan. Et c'est le cas un petit peu aussi du Gilgit-Baltistan. Vous savez, cette région au nord du Pakistan qui n'est pas vraiment considérée comme une province parce que ça fait partie du Cachemire. Mais il y a également un petit nationalisme qui naît là-bas, mais que l'ASI et l'armée pakistanaise contrôlent très très bien. Et les Chinois, évidemment, sont extrêmement préoccupés par ce phénomène au Gilgit-Baltistan, parce qu'il y a une route qu'ils ont construite dans les années 70, qu'ils modernisent actuellement, qui relie Kashgar, dans le sud de Xinjiang, au Punjab pakistanais.
Voilà. Alors, moi, je ne considère jamais comme étant très intéressant le fait de classifier les terrorismes par motivation, parce que finalement, c'est une technique de communication. Ce qu'il faut regarder, les gens ne sont pas nos ennemis parce qu'ils sont terroristes. Ils sont terroristes parce qu'ils sont nos ennemis, ce qui est quand même très, très différent. Et de la même façon, les bouddhistes, les islamistes, les nationalistes, n'importe qui va utiliser l'outil terroriste en fonction de considération bassement tactique, à savoir qu'est-ce qui est le plus facile, le plus profitable, le moins cher et le qui entraîne efficace. Le moins de contre-coups et le plus efficace pour communiquer un message. Et on s'aperçoit que dans une zone où les messages sont totalement brouillés par l'imbrication des conflits, c'est-à-dire des situations géopolitiques où on a déjà changé dans cette conversation 4 ou 5 fois d'échelle. Et chaque fois on a trouvé des lieux pertinents d'analyse. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en un lieu donné, tel attentat très concret, très prosaïque, les attentats contre les Chinois sont très très presque emblématique, puisque à la fois il scie la crédibilité de l'État pakistanais, ils font la politique des États-Unis au niveau d'empêcher que leur pipeline fonctionne. Donc il y a des tas de gens qui sont susceptibles d'aider ce genre d'attentat, mais on ne trouve jamais le smoking gun parce que il y a 4 ou 5 organisations qui dépendent ou pas des services qui sont des coupables potentiels crédibles. Donc ça marche très très bien. C'est un exemple d'ailleurs du rôle du terrorisme pour envoyer des messages ambigus, mais que les récipiendaires comprennent très bien. C'est-à-dire, pour nous, ça peut être un petit peu compliqué, mais celui qui reçoit la bombe, lui, il n'a pas de doute que c'est bien de lui qu'il s'agit, tout comme au Bataclan, il n'y avait pas de doute. Voilà, donc c'est pourquoi ce sont des cas qui sont très, très instructifs. Ça oblige à l'exercice de bien connaître le terrain sur lesquels les choses se passent.
Oui, les Chinois sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe au Pakistan, la situation politique, la situation économique, le terrorisme. Je suis très inquiet.
Oui, ils ont, sachant qu'ils ont le problème ouïghour, où les partisans du camp du bien sont très excités avec les Ouïghours et les Rohingyas. Curieusement,
alors les Rohingyas, c'est un autre problème. Ce sont des gens qui vivent en Birmanie.
Oui.
Ce sont des gens. Les gens que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs, et ces Rohingyas passent de manière clandestine au Bangladesh et aussi en Inde. Et parmi eux, il y a une armée de l'Arakan, qui est une armée qui pratique le terrorisme.
Absolument, et qui est armée par l'Arabie Saoudite, oui, qui est un état moral avec lequel on peut acheter du pétrole sans problème. On est dans un magma de phénomènes dans lequel, c'est pourquoi le fait terroriste est une espèce de fait social total. C'est-à-dire, à partir de là, on peut retrouver des organisations, des configurations géopolitiques particulièrement facilement.
Oui, alors il est très difficile d'y voir clair. En réalité, ce terrorisme a des implications internationales, on l'a souligné, bien sûr. Alors, il faut souligner aussi que le gouvernement pakistanais accuse l'Inde d'aider les nationalistes baloutches, ça c'est très vraisemblable.
C'est très vraisemblable.
Accuse l'Inde d'aider les talibans afghans, les talibans pakistanais, ça c'est quand même un peu bizarre, hein, puisque les musulmans extrémistes sont évidemment les ennemis de l'Inde. On ne sait pas pourquoi l'Inde soutiendrait ces mouvements extrémistes, enfin c'est ce que disent les Pakistanais.
Parce qu'ils gênent le Pakistan.
Il y a également donc au Pakistan des mouvements qui interviennent en Iran, mais du côté iranien, il y a également des aides fournies par l'Iran à des mouvements extrémistes qui pratiquent chiites, au Pakistan, qui pratique le terrorisme. Car il faut savoir que parmi la population pakistanaise, il y a 20% de chiites.
Ouais.
La majorité est évidemment sunnite. Le Pakistan est le deuxième pays islamique du monde au nombre de populations, après l'Indonésie. Et c'est également le second pays chiite du monde, après l'Iran, avant même l'Irak. Alors l'Iran soutient donc certains mouvements chiites au Pakistan. Donc encore une application internationale. L'Inde, on l'a dit. Du côté du Bangladesh, il y a des mouvements terroristes islamistes bangladais qui sont soutenus également par l'ISI pour leur fournir des renseignements sur ce qui se passe dans cette partie nord-est de l'Inde qui est extrêmement instable. L'Assam et tous les autres provinces frontalières de la Chine et de la Birmanie. Donc on voit très bien que le terrorisme, il est national, il y a des applications internationales local dans toute l'Asie du Sud, mais même bien au-delà, évidemment.
Ouais. Qui sont des relations stratégiques, par exemple les Iraniens avec les Hazaras afghans, qui est une vieille histoire. Et de temps en temps, un fait terroriste peut surgir, mais à un moment donné, pour des raisons qu'on a du mal parfois à comprendre, mais le scénario est en place. C'est-à-dire, si on comprend la grande logique structurante, après, effectivement, on comprend qu'il y a des lignes de fracture dans lesquelles, comme des volcans, on a des...
Alors, vous avez cité le phénomène Hazara, c'est très intéressant. Les Hazara, ce sont des gens qui habitent dans le centre de l'Afghanistan, Bamiyan, Bamdi Amir, etc. Mais il y a également une communauté Hazara très très importante au Baloutchistan pakistanais, notamment à Quetta. Il y a des attentats commis par les mouvements islamistes terroristes sunnites contre les Hazara
en
Afghanistan
pensais,
et aussi au Pakistan. C'est un phénomène qui dure depuis des décennies en réalité et qui s'amplifie encore actuellement, y compris au Pakistan. Il y a actuellement des attentats contre les Hazara en Afghanistan, mais il y en a aussi à Quetta, la capitale du Baloutchistan.
Voilà.
Au Pakistan.
Qui est par ailleurs un lieu de choura important pour les talibans. Enfin, il y a de tout.
Alors les Hazara, on les reconnaît très facilement.
Ils ont les yeux
bridés.
Voilà,
ils sont tout à fait différents des autres Afghans. Hein.
Tout à fait. Et
la majorité des Afghans sont des Pashtuns. Hein. On ne sait pas très bien la population, le pourcentage. On estime parfois, souvent 40%. On m'a dit en fait que cette proportion est probablement plus importante, peut-être jusqu'à 60%.
Il n'y a pas eu de recensement
depuis l'éternité.
Voilà. Non, c'est...
Il n'est pas prêt d'en avoir.
Mais ça simplifie parfois les choses qu'il n'y a pas de recensement.
Il y a sans doute 36-38 millions d'habitants en Afghanistan, mais je dis sans doute parce qu'on ne sait rien.
Voilà.
C'est-à-dire la majorité finale, il y a autant d'habitants, si vous voulez, en Afghanistan que dans la province pachtoune pakistanaise.
Il revendique.
Mais ce qui est important de savoir, c'est que le pourcentage donc des pachtounes en Afghanistan est peut-être au moins de 40% au maximum de 60%. Mais les Pashtuns les plus nombreux se trouvent du côté pakistanais. Le centre de gravité Pashtun, en fait, est du côté pakistanais. Mais ils ne représentent que 16-17% de la population pakistanaise.
Voilà. Alors, on voit bien l'implication des échelles, évidemment. Comment les États font pour contenir les mouvements terroristes, pour lutter contre eux? Il y a cette expression farfelue, la guerre contre le terrorisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué aussi par ces États ou est-ce que le terrorisme est là et on ne peut pas en faire grand-chose?
Alors bien sûr, les États luttent contre le terrorisme. Les États se servent du terrorisme quelquefois pour prolonger leur politique étrangère, comme on l'a dit, mais il y a évidemment des mouvements terroristes qui agissent contre l'État pakistanais, contre l'État indien. Alors ces États essayent évidemment de se protéger contre le terrorisme, ce n'est pas facile, on le sait bien en France aussi. Alors pour essayer de se défendre contre l'acte terrorisme, évidemment, il faut avoir du renseignement. Il faut développer les possibilités de recherche, des infiltrations, etc. C'est ce qu'essayent de faire les Pakistanais, les Indiens. Ils en réussissent plus ou moins bien, mais en général plutôt mal. Et puis, il y a évidemment parfois, lorsque les renseignements sont précis, des actions précises pour agir contre les mouvements terroristes. Et comme je le disais auparavant, les Pakistanais envisagent des actions militaires contre des talibans pakistanais repliés en Afghanistan. Ouais. Donc ils agissent militairement.
Ouais. Ce qui n'est généralement pas la meilleure solution, puisque ça...
C'est un engrenage.
Pardon ?
C'est un engrenage.
Absolument, c'est un engrenage et ça entraîne des victimes collatérales qui font des martyrs, qui font des victimes, qui font de la haine, qui font de la vengeance. Alors, est-ce que les États combattent le terrorisme ? Pas nécessairement. Les États peuvent s'en servir, les États ont des bons terroristes. Ce qui est gênant, ce n'est pas tellement le terrorisme qui finalement tue peu. Ce qui est gênant, c'est des gens qui sont nos ennemis, qui utilisent le terrorisme, mais ils commencent par être méchants puisqu'ils sont nos ennemis, et ensuite, après, ils utilisent des techniques qui sont forcément scandaleuses, abominables et ignobles. Le terrorisme étant une technique de communication, parfois elle fonctionne, parfois elle fonctionne pas, il y a des attentats qui ratent, mais les États sont très très ambigu et comme vous venez de le dire, ça peut être formidablement utile d'avoir du terrorisme. Ça permet de passer des lois liberticides, ça permet de contrôler l'opposition, ça permet de contrôler l'internet, ça permet des tas de choses. Et sous prétexte de terrorisme, sachant que, je répète, on a plus de probabilité de mourir noyé dans sa baignoire que d'être victime d'un attentat terroriste. Par contre, c'est beaucoup plus spectaculaire, bien évidemment.
Alors c'est vrai, le terrorisme provoque relativement peu de morts, mais il entretient évidemment la peur. Quoi.
Voilà.
C'est absolument...
Et surtout, l'indignation.
L'indignation.
C'est un moyen que l'État qui délégitime l'État comme garant de la sécurité des citoyens. Donc ça, c'est très très grave. Et ensuite, ça permet à cet État, dans les post-démocraties telles que nous avons dans des pays comme les pays européens, ça permet de légitimer un certain nombre de mesures que jamais on aurait pu légitimer, même si on a beaucoup moins de morts que des accidents de la route. Par contre, c'est un révélateur géopolitique profondément intéressant.
Bien sûr. Alors, vous avez mentionné le problème de l'Internet. Alors, l'Internet est évidemment utilisé par les États pour lutter contre les terroristes. Mais les terroristes, eux-mêmes, utilisent l'Internet.
Bien sûr.
Ils ont des moyens techniques qu'ils savent parfaitement maîtriser actuellement. Les talibans afghans, les talibans pakistanais ont leurs propres médias. Il y a des revues spécialisées en arabe, dans les langues locales, en ourdou, en hindi, etc. Et puis, ils utilisent à la perfection Internet. Ce ne sont pas des demeurés. Hein.
Et des drones.
Il y a parmi eux des gens extrêmement évoqués. Alors, en point de vue, effectivement, lutte contre le terrorisme, le drone joue effectivement un rôle important. D'abord, pour s'informer sur ce qui se passe. Mais rien ne remplace quand même le renseignement humain. Parce que un drone peut repérer l'arrivée de quelqu'un dans une maison, mais savoir qui c'est pas du tout évident. Quoi.
Tout à fait. Et en plus, le drone peut être détourné par des gens qui manipulent mieux les systèmes de contrôle. Enfin, ça donne des il n'y a rien ne remplace le renseignement humain, ça je suis
oui.
Absolument.
Alors le drone est utilisé à des fins de renseignement par la NSA en particulier, oui. On le sait, les Indiens interceptent régulièrement des oui. drones au Cachemire oui. et aussi au Punjab, car il y a un phénomène islamiste également au Punjab indien. Il y a des Sikhs qui peuplent donc cette région indienne, qui revendiquent l'indépendance du Punjab. Ils voudraient appeler cet État le Khalistan. Et évidemment, les Pakistanais soutiennent également ces terroristes punjabis.
Oui,
alors les Pakistanais.
Il manquait ceux-là.
Alors on l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais c'est à mentionner également. Alors il y a des interceptions de drones parfois par les Indiens, donc dans ce Punjab indien. Des drones qui transportent parfois des armes oui. ou des munitions ou des instruments de propagande diverses. C'est un phénomène nouveau, une technique utilisée à la perfection par les mouvements terroristes soutenus ou non par des États.
Oui.
En l'occurrence, l'État pakistanais.
Et le drone devient de plus en plus une technologie bas de gamme.
C'est relativement peu cher.
Mais absolument, on peut fabriquer un drone pour $500 très efficace et on peut mettre un engin explosif qui vient exploser sur la tête de l'heureux bénéficiaire. Donc c'est devenu du low-tech. Il y a 10 ans, le drone était quelque chose qu'on regardait avec un certain respect. Maintenant, ça s'est banalisé. Comme diraient les bobos, ça s'est démocratisé. C'est un instrument qui va modifier une partie des modes opératoires. Bien pas sûr. Du tout de la logique, mais des modes opératoires. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, et vraisemblablement, la zone AFPAC, Afghanistan, Pakistan, va être un des laboratoires, parce que ce sont des gens, comme vous venez de le dire, qui ont une capacité technique tout à fait excellente.
Absolument.
Ce qui n'est pas nécessairement le cas des membres de la diversité qui enrichissent nos banlieues. Ici, on a affaire à des gens qui savent manipuler correctement la technologie. Donc, c'est pourquoi regarder ce qui se passe dans cette zone est essentiel pour suivre le fait terroriste.
Oui, absolument. L'Asie du Sud, on l'a dit, est un des foyers du terrorisme mondial, d'une certaine mesure. Hein. Car le terrorisme islamique, évidemment, concerne la totalité du monde. Hein. Bien évidemment, le monde islamique va finalement du Maroc jusqu'aux Philippines. Quoi. Et puis, les communautés musulmanes, on le sait, sont de plus en plus nombreuses dans beaucoup de pays du monde, en Europe en particulier.
Bien évidemment. Quoi.
Donc, il y a des liens, incontestablement, qui se créent entre ces phénomènes extrémistes.
Je voulais vous interroger sur l'attentat qu'il y a eu au Pakistan contre des Français. C'était des ingénieurs français qui étaient là-bas. Qu'est-ce qu'on a comme élément sur le sujet ou...
Oui, alors là, c'est assez flou. On ne sait pas très bien quelle est la motivation. On a dit que pendant les négociations pour la vente de sous-marins au Pakistan, on a dit qu'il y avait des négociations en parallèle, que des commissions avaient été versées, ou avaient été promises en tout cas à certaines personnalités pakistanaises. On a dit que ces commissions n'auraient pas été versées et que ce qui expliquerait les attentats commis contre les ingénieurs à Karachi. Mais ça, ce n'est pas du tout certain, quoi. C'est une autre forme de terrorisme, effectivement, dirigée là contre la France. pour des motifs qui sont encore assez peu élucidés finalement.
Et quel est l'intérêt sur un attentat si on n'y a pas de revendication ? C'est pour faire peur à la France en disant on peut intervenir
non, il y a une chose qui est importante, mais qui est générale sur le terrorisme, c'est-à-dire la plupart des attentats ne sont pas revendiqués. Mais la plupart des attentats sont parfaitement perçus comme étant des messages pour ceux qui doivent le recevoir. Une chose, c'est d'envoyer, de faire l'attentat et qu'on prenne qui doit comprendre. Alors, quand on ne veut pas s'adresser à l'opinion publique, c'était le cas du Hezbollah dans les attentats de 95, on a trouvé un nom, des années 80, on a trouvé un nom plus ou moins bidon, mais pour le gouvernement français, il n'y avait aucun doute. Les attentats d'action directe, un certain nombre n'ont pas été revendiqués, mais tout le monde savait que les commanditaires étaient... Bon, ceux-là... Donc, revendiquer n'est pas nécessaire dès le moment où il n'y a pas d'ambiguïté.
Alors, en Asie du Sud, quand même, la plupart des attentats sont revendiqués.
Oui.
La plupart.
Oui. Parce que là, il y a trop d'organisations. Oui, parce qu'il y a trop d'organisations. Donc là, comme il y a une compétition entre les organisations, il faut dire c'est nous qui avons. Oui.
Alors quelquefois, il y a des confusions parce qu'un même attentat peut être revendiqué par plusieurs organisations.
C'est classique.
Oui. Ce qui complique encore les choses. On ne sait pas très bien parfois qui a fait quoi.
Voilà. Mais dès qu'il y a un crime crapuleux, particulièrement sordide, en criminologie, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui se revendiquent de ce crime pour avoir leur quart d'heure de gloire. Mmh. Ben oui, ce qui confirme que le terrorisme est un moyen de communication. Donc, si on... voilà, c'est... Et parfois, le vrai réalisateur de l'acte ne le revendique pas, mais il y a 4 ou 5 organisations qui le...
Ça arrive.
Voilà, c'est un milieu fascinant, le terrorisme.
Il y a eu le cas aussi en Inde contre le grand hôtel. Ça avait été extrêmement majeur.
En 2008,
c'est
en 2008. Mais c'est l'attentat de Bombay.
On en parlait tout à fait au début de l'émission. Voilà. C'est celui-là qui a été fomenté par une organisation basée au Pakistan.
Voilà. Les services secrets.
Ce sont des gens qui sont arrivés par la mer.
Oui, par la mer, oui.
Donc les attentats ne sont pas uniquement organisés à travers les frontières terrestres, mais ils peuvent l'être également par la mer.
Voilà. En détournant un bateau de pêcheur, d'ailleurs.
Absolument. Il y a eu des victimes juives également.
Oui.
Il y a eu plusieurs cibles à Mumbai qui ont été visées, notamment certains centres juifs.
Oui, un centre juif, un café, la gare, etc. C'est un attentat multisite. C'est sans doute le premier attentat multisite avant le Bataclan qui est remarquablement fait parce qu'ils ont très bien travaillé.
Et les Indiens ont été très très surpris. Pas du tout prévu, ça n'était pas du tout prévu.
Bien sûr. Ouais.
Alors les Indiens essaient maintenant de se protéger évidemment contre des attentats sur la mer. Ils ont réorganisé leur défense côtière, garde-côte, la marine elle-même, etc. Mais c'était très compliqué parce que il y a au large de l'Inde les Maldives qui sont très travaillées également par l'islamisme. Et puis il y a l'archipel des Lakshadweep qui appartient à l'Inde et là l'archipel des Lakshadweep est également peuplé de musulmans. Car le Cachemire n'est pas la seule province indienne à avoir une majorité de population musulmane. Il y a aussi l'Lakshadweep.
Oui.
C'est un archipel à l'ouest du Kerala.
Oui. De toute façon, contre l'Inde actuellement avec le gouvernement du BJP, il y a des tas de gens qui ont un intérêt particulier à le déstabiliser et dont les services du camp du bien, pour des tas de raisons. Donc, c'est une fois de plus, on a l'utilisation du fait terroriste pour communiquer des messages en disant « Attention, si vous prenez cette mesure-là, nous allons, ou nous avons fait parce que vous avez pris telle initiative. » Donc, on est tout à fait dans le domaine de la communication.
Un point important à souligner, que nous n'avons pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est que le terrorisme est lié aux migrations.
Bien sûr.
Parmi les Afghans qui se sont réfugiés au Pakistan, 3 à 4 millions, il y a parmi ces gens-là, incontestablement, des militants terroristes. Il y a également, du côté du Bangladesh, une immigration clandestine à destination du Bengale occidental, peuplé de Bengalis, les gens parlent la même langue au Bengale occidental, province indienne et au Bangladesh. Et puis une immigration également de Bangladais, essentiellement musulmans, vers l'Assam, qui modifie totalement la population de l'Assam, d'ailleurs, peut-être, il y a maintenant peut-être 30% de la population de la SAM qui est musulmane, c'est-à-dire le double du pourcentage national. Et parmi ces Bangladais qui émigrent donc en Inde, il y a des terroristes, on le sait, manipulés peut-être par, même sûrement par la ISA également. Et on l'a dit, en ce qui concerne les Rohingyas, oui. Parmi les Rohingyas, il y a également des terroristes.
Ah oui.
Donc les migrations sont liées également aux terroristes. Les migrations favorisent d'une certaine manière le terrorisme.
Absolument. Et pas qu'en France.
C'est un phénomène évident en Asie du Sud.
C'est sûr. Plus la population halogène non intégrée est importante, plus on a un phénomène de terreau. Alors, bien sûr, dans ce terreau, les gens ne vont pas passer à l'acte terroriste, sauf dans une toute petite partie, mais ça constitue un milieu dans lequel se produit le phénomène le plus important pour caractériser un terreau, c'est la non-dénonciation. C'est-à-dire que même des gens qui ont un comportement limite ne vont pas être dénoncés parce que l'on ne dénonce pas un frère, parce que l'on ne dénonce pas un cousin. Et donc ce terreau va servir pour l'infrastructure de la clandestinité. C'est ce que l'on voit en France très très clairement. Alors de temps en temps, ce terreau apparaît visiblement, pas seulement lors des matchs de foot, mais on a une partie de la population dans laquelle la non-dénonciation pour des raisons ethniques, ce n'est pas seulement le cas des musulmans, la non-dénonciation pour des raisons ethniques ou religieuses ou ce que l'on veut, est forte. Et c'est ce qui caractérise le terreau du petit sommet de la pyramide qui va passer à l'acte, bien sûr, mais qui a besoin de cette masse. Donc, suivre les mouvements de migration, ce n'est pas parce que l'on veut discriminer et parce qu'on va faire des amalgames, c'est parce que c'est la base de la compréhension d'un phénomène. Il n'y a pas de groupe qui passe à l'acte terroriste, ou alors il est très vite isolé et pourchassé, comme la Rote Armée fractionne en Allemagne, où le terreau s'est retréci, ou les Brigades Rouges même s'est retréci. Mais dans le cas de l'islamisme, ce terreau est en voie d'expansion considérable, et ce que l'on voit donc dans l'Asie du Sud est un phénomène totalement homologue à ce que l'on voit ailleurs, ce qui est le propre d'ailleurs du terrorisme, c'est que l'on retrouve la même technique de communication partout dans le monde. Ce qui change, c'est le complexe terroriste, c'est-à-dire toutes les choses. Et voilà, donc j'invite très très vivement nos auditeurs à lire le chapitre qu'a écrit le général Lamballe dans notre livre « Le complexe terroriste ». Dans lequel, c'est pas seulement pour faire de la publicité par notre livre que nous avons dirigé avec Jean-Baptiste, mais parce que ça vient tout à fait pour illustrer la complexité des faits, parce que là on est rentré dans parfois des considérations techniques qui sont indispensables, mais pouvoir le lire calmement dans le numéro 33 de Conflit, en plus il y a une carte sur les ethnies, les attentats. Et il faut savoir que ce que l'on parle n'est pas du tout exotique. Ce que l'on parle, c'est une logique du fait terroriste qui est valable ici, partout et ailleurs.
Eh bien, merci beaucoup. Et c'est cette conclusion que nous allons terminer notre conversation. Merci à tous les deux, Général Alain Lamballe et Daniel Dory, d'avoir éclairci en montrant la complexité et l'imbrication de cette zone d'Asie du Sud. Et merci à nos auditeurs qui sont chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre. Et également, je vous rappelle toujours cette nécessité de soutenir Conflit, notamment en vous abonnant ou en abonnant des proches. En vous abonnant, vous permettez à la revue de continuer son développement, de vous proposer également ses contenus en libre accès. Vous avez tous les éléments pour vous abonner sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, et l'abonnement est le meilleur soutien à faire, d'autant qu'avec les abonnements, vous avez accès sur le site internet à du contenu exclusif réservé aux abonnés. Donc, non seulement vous êtes des conflits, mais en plus, vous avez accès à des éléments auxquels n'ont pas accès les non-abonnés. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.